Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre, voilà notre philosophie. Philosophie, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Mais très vite, même des gens qui venaient de la montagne profonde comme moi avaient compris qu'on était là pour rien. Et que la guerre, on ne la gagnerait pas, puisque la population n'était pas avec nous. Et on le sentait fort bien que la population n'était pas avec nous.
Près de Mouchard, en Kabylie, où est Guadalquivir et la rivière, les blessons jaunes et les épis qui se recouvrent de poussière. Chante le pain des partisans près de Mouchard en Kabylie, perdu sous le soleil brûlant, Guadalquivir coule sans bruit. Mais un matin que le grillon chantait son chant sonore et doux, on vit au loin à l'horizon et sur les plateaux de partout l'âpre lumière des mitrailleuses qui déchiraient la plaine grise en longues saccades nerveuses tout près d'Amoucha l'insoumise. Les filles nues au sein de l'air attachent leurs poignets graciles, et sur le ventre bien rasé on a branché les crocodiles. Meurent les filles aux grands yeux noirs, mais de leurs dents toujours serrées, aucune plainte, aucun espoir ne sont sortis de leurs baisers. Ils sont partis et les baignoires sont là devenues inutiles, plus jamais ne pourront s'asseoir à l'intérieur tous les Kabyles. Ici est mort avec ton père, ta sœur qui n'avait pas 12 ans, dit la maman, c'était la guerre, ils étaient 10, nous étions 100. Près de Mouchard en Kabylie, où est Guadalquivir et la rivière, les blessons rouges et les épis qui se recouvrent de poussière. Chante l'espoir aux survivants près de Mouchard en Kabylie, perdu sous le soleil brûlant, où est Guadalquivir coule sans bruit.
Émissaire, bonjour. Je vous remercie de m'accorder cet entretien pour Radio Canu. Votre nom, sans doute, ne dit pas grand-chose à nos auditeurs, mais on va évoquer avec vous à la fois votre parcours, votre vie, et puis aussi beaucoup l'action que vous menez depuis une petite dizaine d'années à travers une association qui a été créée en 2004. Vous êtes né dans le Tarn.
Et voilà, et bonjour, je suis né dans l'Aveyron,
L'Aveyron.
Les montagnes profondes de l'Aveyron, dans un pays où il y avait peu de moyens de locomotion, peu d'informations. Et j'ai été à l'école jusqu'à 14 ans.
Mmh. Vos parents étaient agriculteurs ?
Mes parents étaient agriculteurs. Et j'ai fait un peu de secondaire, puisque j'ai allé jusqu'en 3e secondaire. Et après, à 15 ans, je me suis mis à travailler la terre.
Avec l'idée que vous deviendriez agriculteur
Je pensais que je... Oui, c'est une idée de devenir agriculteur.
Ah. Et votre date de naissance, on ne l'a pas donnée
Le 15 février 38.
15 février 38. Donc à 15 ans, c'est en 43, c'est pendant la guerre, ça
Non, 38,
53.
53,
oui.
Non, la guerre était finie. J'ai quelques souvenirs de la guerre de 40, mais nous, là-bas, il n'y a pas eu des... Il n'y a pas eu de... Il s'est passé pas grand-chose. Quelques personnes qui ont été tuées, mais... Ouais. Aussi des enfants, on est cachés, quoi.
Vous avez vu des soldats allemands, non?
J'ai vu passer des soldats allemands sur la nationale, là-haut, qui était à 4 ou 5 km de la ferme. Ouais. Mais j'ai pas... Quelques souvenirs des maquis qui venaient s'approvisionner à la maison.
Ah oui.
Ma mère disait qu'il y avait le bon maquis et le faux maquis. Je ne comprenais pas grand-chose de tout ça, quoi.
Ouais, c'est...
Voilà, donc après, j'ai fait un peu de jeunesse agricole catholique de JAC. Ça m'a un peu dégrossi, disons, mais on n'était pas très au courant de ce qui se passait dans le monde, de ce qui se passait, même en France. Quoi. Il y avait la radio chez nous, qu'on écoutait peu. Il n'y avait pas de journaux, pas de télévision, bien sûr. Et puis, tout ce qui n'était pas travail, c'était du temps perdu, voilà.
Et là, Jacques, qu'est-ce qu'il vous proposait comme activité ?
La JAC nous proposait des coupes de la joie à l'époque, c'est-à-dire qu'on se retrouvait entre villages, on faisait des espèces de séances récréatives. Il y avait des semaines rurales où on apprenait à téléphoner, on apprenait à s'affairer, c'est comme ça. On apprenait à envoyer un télégramme, on apprenait à les choses basiques aujourd'hui qui font rire. Il y avait aussi des stages de culture générale, j'avais fait un stage de culture générale à côté de Rodez, c'est-à-dire j'étais allé jusqu'à la préfecture. Mmh. Et là, on était une trentaine ou quarante, et pendant 3 semaines quand même, on nous avait essayé de nous faire voir ce qu'il y avait autour de nous, et comment analyser les faits, comment analyser les événements politiques, les événements religieux aussi, parce que c'était très branché chrétien. Mmh. Il y avait l'aumônier qui était là et qui avait son cours doctrinal tous les soirs. C'était très, très divisé entre garçons et filles, on ne mélangeait pas les choses. C'est-à-dire qu'il y avait un quart pour aller à la coupe de la joie au village voisin ou à la ville voisine. S'il y avait assez de monde, il y avait 2 quarts. S'il n'y avait pas assez de monde, il n'y avait qu'un quart. Il y avait les filles devant, les garçons derrière. C'était... Et l'aumônier mieux. Donc, voilà, tu ne risquais pas de faire des impairs, mais ça n'avait rien. C'était une ancienne époque.
Et c'est ce passage à la jeunesse agricole chrétienne, c'est comme ça qu'il l'appelait. Hein.
Oui,
ça, vous avez l'impression que ça vous a servi après
Bon, ça m'a servi, oui, mais je l'ai beaucoup. J'ai presque regretté d'avoir été là, puisque tous les élites, beaucoup de gens qui sont passés après à la FLCA, c'est des gens qui étaient de la JAC. Qui avait été formée là. Et la FMCA, aujourd'hui, j'ai compris qu'elle avait fait plus de mal que de bien. Et donc, ça a été presque automatique. Ça passait au CDJA, Centre des jeunes agriculteurs, la branche jeune du FMCA. Et puis, ça passait à la FMCA, Chambre d'agriculture. Et tous les Aveyronnais, quand on a beaucoup parlé, des Bruel, des Casals qui sont montés présidents de la Chambre d'agriculture, ou président national de la FMCA. Voilà, donc je me suis dit que, heureusement, je n'ai pas vu le... J'ai fait d'autres rencontres qui m'ont fait réfléchir avec des gens comme Lambert, qui, lui, avait aussi fait de l'OJAC, mais qui a réfléchi que c'était pas la bonne... que cette direction de la FNCA n'était pas la bonne. Quoi. Et après, j'ai milité à la Confédération paysanne, après avoir resté plusieurs années sans participer au Conseil syndical, parce que je n'avais pas de cours à la Confédération paysanne et je ne voulais pas méditer à la FNC.
En quelle année vous êtes entré à la Confédération paysanne ?
Je suis entré très tard, c'est-à-dire que j'avais peut-être 50 ans. Donc,
oui.
Ça J'avais su rester longtemps sans payer de cotisation syndicale.
Donc jeune, 16 ans, 17 ans.
Après j'ai fait ouvrir l'école parce que chez nous c'était les petites fermes où on mangeait notre ferme, mais je dis souvent qu'on mangeait plus de paille que de brune. Chocolat, il n'en a pas souvent. Et donc j'en ai travaillé dans des fermes plus importantes. Et puis un jour, j'avais 20 ans le 15 février, j'ai reçu, je crois, dans le mois, la feuille de route pour partir d'abord au Maroc, à Agadir. Et voilà, et je savais pas du tout ce qui m'attendait, la guerre d'Algérie, on n'en parlait pas dans nos campagnes,
je sais pas. Vous si saviez que ça existait quand
même. Bien sûr. On savait que la guerre d'Algérie existait, on savait qu'il y avait des morts, parce que de même temps, il y avait des petits cercueils qui revenaient.
Et vous espériez ne pas y aller
Mes parents, mon père avait fait la guerre de 14, et c'était le plus triste, parce que lui, il savait ce que c'était une guerre. Il a eu la mort de très près, il était revenu blessé, un frère à lui était revenu blessé aussi. Mais il me disait, si tu vas à Agadir, tu risques de ne pas aller en Algérie. Et nous voilà partis, moi j'avais jamais vu la mer, j'ai embarqué à Port-Vent, moi, 48 heures de traversée, une mer très houleuse, tout le monde qui rentre de l'âme là-dedans. Et des gens très tristes, quoi. Des gens très tristes, qui ne savaient pas voler, qui. Même les plus futés d'entre nous n'avaient pas l'air de trop savoir, quoi.
Trop savoir quoi.
De trop qui savoir allait où on allait, qu'est-ce qu'on allait faire et qu'est-ce qui nous attendait là-bas, quoi. Pourquoi on nous envoyait là-bas.
Voilà. Dans ce port, nous étions des milliers de garçons. Nous n'avions pas le cœur à chanter des chansons. L'aurore était légère, il faisait presque beau. C'était la première fois que je prenais le bateau. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont on ne voulait pas. Du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Au balcon séché draps et serviettes, comme en Italie. On prenait de vieux trains à banquette, on était mal assis. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Ce n'était pas un port à faire du mélo. Et pourtant je vous jure que j'avais le cœur gros. Quand ils ont vu le quai s'éloigner, s'éloigner, il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. C'était une aventure dont on ne voulait pas. L'Algérie, du désert à Blida, c'est là qu'on est parti jouer les petits soldats. Nos fiancés nous écrivaient des lettres avec des mots menteurs. Le soir, on grillait des cigarettes afin d'avoir moins peur. L'Algérie, même avec un fusil, c'était un beau pays, l'Algérie. Un port, ce n'est qu'un port, mais dans mes souvenirs, certains soirs, malgré moi, je me vois revenir sur le pont délavé de ce bateau prison. Quand Alger m'a souri au bout de l'horizon. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure dont je ne voulais pas.
Bonjour, je raconterai l'histoire à mes petits-enfants du voyage où notre seule gloire c'était d'avoir 20 ans. En Algérie, avec ou sans fusil, ça reste un beau pays, l'Algérie.
Arrivé à Oran, et le sultan du Maroc à l'époque avait décidé de ne plus prendre de troupes françaises. Et on nous laisse là en pensant que ça se débloquerait, on nous laisse là pendant 15 jours avec nos amis civils qui se déguenillaient et qui n'étaient pas chargés, ils n'avaient pas de paquetage, on venait à manger, et puis là on était là, attends.
Parce qu'avant d'embarquer, on ne vous avait pas fait suivre 15 jours ou 3 semaines de formation militaire?
Absolument rien. Rien de tout. La feuille de route pour l'Algérie, enfin pour le Maroc. Donc on ne savait pas où on allait, on ne te disait rien, on parlait le moins possible. Et entre nous, on chuchotait des trucs, mais personne ne savait. Moi, je n'ai pas l'impression que des gens qui venaient de la ville, qui auraient pu, ou qui avaient étudié sur Citer, tout ça, qui auraient pu savoir plus que nous. Moi, je n'ai pas le souvenir que quelqu'un nous expliquait quoi que ce soit. Il y a eu 15 jours, 3 semaines, la mémoire fait défaut depuis le temps. Ouais, je sais pas, mais 15 jours, c'est sûr. On nous a dit, eh bien, on va vous laisser en Algérie, puisque là-bas, il y a pas de place. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on a essayé de voir les régiments qui avaient de la place. Et c'est voilà comment 200 de parmi nous se sont retrouvés dans un régiment disciplinaire, au 1er régiment tirailleur algérien, à Bogart, dans le... Bogari, c'est le côté de Bidas, hein, c'est... Je sais pas, je connais. Et là, ce régiment disciplinaire, il y avait des gens qui avaient quand même un cahier, un carnet, un truc... c'était des cas. Nous, on n'était pas des cas, nous, on était des gens, disons, normaux, qui n'avaient pas eu la chance d'aller, de pouvoir aller là où on devait aller. Donc on nous a mis là, mais on ne nous a pas fait de cadeau. On a épousé le régiment disciplinaire.
Ah ouais.
Donc on a eu des classes très dures, on a eu des classes... moi, c'est le plus mauvais souvenir de l'Algérie que j'ai. Personnellement, il fallait nous apprendre à obéir, nous mater, et faire ce qu'on nous disait de faire sans chercher à comprendre. D'ailleurs, on nous disait chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Et un soir, on a voulu faire une mini-révolution. Il y avait un gars qui avait été scout en France, qui dit, parce qu'il ne savait pas que c'est dur. Il y avait des revues de chambre, des revues de chambre jusqu'à minuit. Quoi. Il trouvait toujours la chambre sale. Toujours. Donc il fallait revues de chambre, il fallait être debout, garde à vous quand il venait. Et puis, voilà. Et puis on s'est tous couchés. Et voilà. Et quand il est passé, qu'il a vu ça, c'était un caporal chef appelé, c'était pas encore en France, il est devenu fou furieux, il est allé appeler les étudiants, et puis on a crapahuté pendant 3 nuits, on a payé ça très très cher. Je vous fais grâce des détails, parce que c'est ça trop long. Voilà la mini-révolution que nous avons essayé de faire, et qui ne nous a pas réussi. Et après, au bout de 2 mois, ça s'est un peu assoupli. Voilà, un peu assoupli, parce que là, on a commencé à... d'avoir des gens qui obéissaient, quoi.
Ils ont considéré que vous avez dressé.
Voilà. On te faisait faire des pompes, on te faisait ramper, et je me rappelle que c'était tirable d'ici. Toutes les occasions étaient bonnes, quoi. C'était pas... Et s'il y avait une flaque d'eau, que tu fasses le tour, c'est tout droit. Voilà, pour dire un peu ce que c'était. Au bout de 2 mois, ça s'est un peu calmé. On a passé à des choses plus pratiques, disons. On a fait beaucoup de tirs, apprendre à tirer, beaucoup de cibles, beaucoup de maniement d'armes, on fait maniement d'armes, apprendre à les utiliser. Et là, ils nous ont dit un peu que c'était à la guerre, qu'il fallait se préparer, que dans 2 mois, nous allions partir dans le bled, et que là, c'était pas des cibles en bacatom, c'était des cibles qui risquaient de se retourner contre nous. Et voilà, la guerre, les classes sont finies. Je suis allé à côté d'Alger, à Mouinam. C'était un foyer central où on s'occupait d'approvisionner les compagnies qui étaient autour. Donc là, on avait la charge, on était 4 ou 5, la charge d'approvisionner les gens en nourriture, en boisson, et moi, je faisais du cinéma, c'est-à-dire que j'avais un appareil de cinéma, et j'allais faire le tour des compagnies, je voyais 5 ou 6 fois, ou 10 fois, je crois, le même film. Mais très vite, la Kabylie m'a manqué de main, et on nous a dit qu'il faut aller plus loin, quoi. Donc on est parti pour la grande Kabylie, et là, c'est pas pareil. Là, on a vu que c'était la guerre, quoi. En arrivant, on a vu des villages brûlés, des pistes cassées, des voitures, des abstracts retournés. Tu arrives à l'endroit, tu te dis ici, c'est pas pareil, quoi. Et c'est la petite anecdote qu'on m'a racontée depuis que je vais là-bas. Il y avait un gars d'Oran, une fois, qui avait rencontré une Kabyle. Et en Oran, c'était quand même pas à la Kabylie. Alors le gars d'Oran, il dit au Kabyle, il paraît que vous êtes fâché avec les Français. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La guerre se passait surtout au Kabylie.
À cause de la guerre, les hommes de 20 ans n'aiment plus les bateaux, ni les horizons, ni la mer, ni les mots étonnants qui fleurissaient en rêve de voyage autrefois. À cette époque où l'océan, quelle que soit l'heure, était bleu, sillonné de corvettes et de galères, océan terrible et doux, ouvert aux aventures des hommes, adolescence cristallisée, jeunesse impérissable, tout cela s'effrite. Les mots eux-mêmes, qui savaient dessiner sur la nuit des paysages incomparables, les mots peu à peu se sont laissés défigurer à cause de la guerre. Les bateaux sont devenus l'un après l'autre des naufrages. Cependant, ils sont demeurés la quille droite, éventrant les eaux sans un instant faillir, et la pipe est restée fichée droite dans la gueule de l'homme de barre. Et tous les passagers, forts de leurs 20 ans, de leur arrogance et de leur candeur, ignorant la route, résignés et joyeux, morts d'avance à cause de la guerre, qui souffle les murailles et qui, la nuit, arrache aux pierres elles-mêmes des hurlements préhistoriques. Les arbres, peuplés de léopards et d'oiseaux, sont brusquement dévorés par le feu. Et les grands reptiles carbonisés grésillent en torsade autour des branches qui bientôt s'écrasent au sol. Et les volcans se réveillent à cause de la guerre. Et les fleuves infatigables charrient le sang des hommes, quelle que soit la race ou la couleur, quelle que soit aussi leur colère, leurs droits, leur folie et leurs devoirs. Les hommes de 20 ans, chimpanzés, terrifiés, maladroits sous l'uniforme, ont brusquement 2000 ans de trop à cause de la guerre. Le pétrole s'apprête à remplacer le sang. Et le scorpion se met à courir droit devant lui, affolé, infatigable, dérouté par cette vibration du sable à laquelle on ne résiste pas, devant laquelle il n'existe nul autre recours que la fuite éperdue. Le scorpion noir, aveuglé, terrifié par le grondement souverain des robots qui se dressent à présent sur le ciel, insecte démesuré, inassouvi, infatigablement féroce, implacable bourreau de tous les paysages possibles. Le scorpion s'arrête, hésite un instant, puis sa queue lentement se redresse et l'aiguillon perce le thorax. Tandis qu'à l'horizon, de tous côtés, le pétrole jaillit, fleurit, s'épanouit en torches gigantesques, droites, d'une beauté foudroyante. Et le dromadaire blanc, lui aussi, s'arrête et tremble. Et soudain, s'agenouille paisiblement, sans hâte, non plus cette fois pour le repos, mais pour la mort, à cause de la guerre.
Et voilà, et là, j'ai été affecté à une petite équipe de voltigeurs, quoi.
Et vous étiez caserné comment
là, on était, dans un petit village où on avait occupé, je ne sais pas, c'était un groupe de maisons sur un piton près des corps du village, et ils étaient arrivés avant moi, d'autres, donc ils avaient un peu aménagé, quoi. Alors, il y avait 120 personnes, c'était une compagnie.
120 militaires.
120 militaires. Je ne sais pas si vous savez comment c'était un peu divisé, l'Algérie, tu avais la compagnie de commandement au centre, qui, elle, s'occupait essentiellement de la logistique. Et vous aviez autour 4 compagnies qui, elles, c'était des voltigeurs, et qui partaient soit seuls en opération, soit les quatre réunis, et même qui après pouvaient se réunir avec d'autres bataillons. Mmh. Donc il y avait une certaine organisation, c'est sûr, il fallait bien. Voilà comment je me suis retrouvé sur un piton dans une compagnie. Voilà.
Et avec une grosse activité quotidienne ou...
Petite, c'est-à-dire que le gros truc, c'est, nous étions dans l'infanterie, nous n'étions pas des parachutistes ou des légionnaires, c'est-à-dire que quand même, c'était pas... Nous, quand on arrivait dans un village, les gens avaient peur, bien sûr. Mais rien à voir avec la légion ou les parapes, même les poules partaient, quoi. Les personnes, c'était des gens qui... Des gens que tout le monde en avait peur, quoi. C'était pas... Parce que nous, on a eu crapahuté avec des parachutistes et on voyait la différence. Et je pense que ça vient beaucoup du chef. Ou alors, les paras, il fallait se mettre en avant, on savait toute l'histoire qu'il y a eu autour de Bijard et tout ça. Donc il fallait que ça... Il fallait se débarquer, quoi. Nous, ils nous traitaient de rigolos, hein, les parachutistes nous traitaient de rigolos, quoi. Mais malgré ça, de temps en temps, on avait quelques morts. Et après, tu faisais des... Il y avait des villages autour. Et nous faisions des embuscades le soir autour du village. C'est-à-dire, tu allais...
Le soir ou la nuit?
Le soir. Tu partais à la tombée de la nuit. Entre chez vous, pour qu'on ne te voit pas. Et il fallait être en place la nuit. Parce que tu risquais l'embuscade inverse si tu partais trop tard. Parce que eux aussi... De temps en temps, il y en est à attendre quand toi t'allais te mettre en embuscade. Donc, il y avait, voilà, ils pensaient que c'était la meilleure heure. On pensait pour nous, on n'avait rien à penser, c'était lui. Et donc, tu allais te mettre là jusqu'à minuit, 1h du matin, et puis si tu ne voyais rien, tu rentrais, voilà. Et puis après, de temps en temps, il y avait des opérations. Moi, je suis parti plus de 3 ou 4 jours, voilà. Après, il y en avait, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des trucs beaucoup plus dans la guerre que nous. Qui eux, je pense, j'ai lu des livres depuis, ils partaient pour des quinzaines entières. Quoi.
Les opérations, c'était... Ils avaient identifié un groupe ennemi, entre guillemets, et il fallait l'attaquer.
Il y avait ça, où il y avait aussi... on pensait que dans telle montagne, il y avait des indices. Puis il y avait les prisonniers qui, à force de torture, arrivaient à parler, donc on disait qu'il y en avait là. Donc, il y avait... C'était un peu comme la chasse aux sangliers. Il y avait des gens qui entouraient la montagne, et puis d'autres qui avançaient, voilà, qui rabattaient. Et donc, et c'est comme ça, moi, en rabattant, qu'on dit, en 10 mars 59, j'ai été blessé, descendu dans un truc là. Et puis, ils choisissaient le moment, les Feldagas n'étaient pas. Les Feldagas ou les combattants, parce que Feldagas, ça faisait bandit. Et nous, on n'aime pas prononcer ce mot. Les combattants, donc, choisissaient le moment parce qu'ils étaient toujours en minorité. C'était une guérilla, ce n'était pas une guerre égale. Donc, ils nous ont tiré dessus à la tombée de la nuit parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se replier plus facilement. Et donc, voilà, j'étais obligé à la tombée de la nuit. Et on a signalé la blessure à la direction qui a dit que c'était trop tard, qu'on l'évacuerait demain. L'infirmière a qu'à y faire une piqûre. Et puis si tu étais mort, c'était pas très grave. Ils avaient le droit à l'entente de perdre. Il
fallait mieux perdre un homme qu'un fusil, voilà. Hein, presque.
Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis revenu en France pendant 3 semaines de longue licence. Et puis j'ai fait 15 jours à l'hôpital d'Alger. D'abord j'étais évacué sur Tizi Ouzou, mais c'était plein à craquer. Il y avait des blessés jusque sur la route.
Votre blessure était grave?
Une balle qui a traversé le cou, ça aurait pu être grave, mais c'était pas grave. Ouais. Mais sur le coup, ouais, je pensais que j'étais mort. Tu vois du sang, tu te dis, ça y est, t'es mort.
La mer sur le rocher, le vent sur le clocher, le vase renversé, la lampe prise pour cible, le fil de la pensée, la phrase inachevée, la voix désespérée, et la corde sensible. Tout se brise, tout se brise. Le marbre profané, la tombe délaissée, l'os du supplicié, larme dans la plaie vive, les tuiles envolées, et l'amour déchiré, l'arbre déraciné, la barque à la dérive, tout se brise, tout se brise. Nos plus belles pensées, nos plus belles idées, rêves d'humanité, et nos voix insoumises, le chant d'égalité et de fraternité, le cri du révolté, cœur nu sous la chemise, tout se brise, tout se brise. Notre orgueil insensé, nos armures déglinguées, la mort tant redoutée, prend par surprise nos crânes désertés, nos combats oubliés, nos passions dénouées. Un jour tout s'égalise, douce brise, douce brise.
Et dans cette période de combat, vous étiez remonté par l'action psychologique de l'armée, où vous cherchiez à tirer, ou quand vous voyez un type, vous tiriez plutôt à côté que dessus, quoi.
Bon, on n'était pas des tueurs, on n'était pas des tueurs, comme j'ai pu lire des livres depuis qui s'acharnaient à tuer. Bon, je sais pas, j'ai pas de souvenirs où je me suis acharné sur la population. Bon, les viols et tout ça, je sais qu'il y a eu des viols, mais je les ai jamais vus. Donc il y avait pire que nous, quoi. Il y avait pire que nous, mais il fallait bien se défendre.
Vous étiez quand même conditionné.
Il fallait bien se défendre, et ouais. Puis moi j'avais... Il y a un moment où tu n'es plus le même homme. Moi j'ai été volontaire le soir pour partir en embuscade, quoi. Alors que je ne suis pas un tueur, moi, je ne suis pas né pour ça, mais... Pourquoi j'étais volontaire? Parce que ça te faisait une soirée occupée, parce que... T'avais envie de ce danger, finalement, t'avais envie de... Et puis moi, je pensais que j'allais mourir, voilà. Je pensais, quand j'ai été blessé, que je suis revenu là-bas, j'avais dit à quelques copains, j'ai dit, vous ne me reverrez pas, quoi.
Et vous pensiez que vous alliez mourir même avant la blessure?
Non, surtout non. Après.
C'est à partir de ce moment-là.
Et j'ai eu très peur, parfois, donc ma blessure, ils m'ont mis caporal d'office, puisque sinon, il fallait faire une espèce d'examen, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et moi, je n'ai pas refusé parce qu'on passait de 5 000 francs anciens à 16 000 francs par mois. Et donc, mes parents étaient très pauvres avec 16 000 francs. Là-bas, il n'y avait pas d'occasion, j'avais mon argent de poche. Et voilà, donc j'ai accepté tout de suite d'être caporal. Ça ne va pas changer grand-chose, à part que j'avais une petite équipe que j'étais responsable de 4 ou 5. Voilà.
Après la blessure, voilà. Donc vous êtes revenu au combat.
Hein. Oui, tout comme... Je suis revenu au même endroit.
Même endroit.
Et voilà comment aussi j'ai été après un caporal, il était chargé par exemple d'organiser l'embuscade. Enfin, d'organiser. C'est lui le responsable de l'embuscade. Donc on te disait, allez, serre, partez l'embuscade ce soir avec vos hommes et vous allez à tel endroit. Donc tu avais intérêt à te repérer. T'avais pas de là dessus, quoi, pour des petits trucs comme ça. Et là, j'ai eu très peur un jour, là, on était 5 ou 6, tu sais, on se couchait là, sur un sentier où les gens, d'habitude, venaient faire l'huile d'olive, mais là, on entend des gens qui descendent. Alors, on se concerte, on se dit, mais putain, ils sont moins de 50, quoi. Et alors, on se parle, comme ça, on dit surtout, si on ne voit pas, ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas. Ça s'approche, tu trembles, tu te dis, des fois, et puis c'était des sangliers, voilà. Donc, ils sont passés, et voilà. Et une autre fois où j'ai eu très peur aussi, où la peur te paralyse, mais te paralyse vraiment, c'est que, un soir, une de nos équipes part en embuscade, et le sergent est tué, et le caporal-chef. Le sergent est tué, c'est lui qui faisait les renseignements, c'est lui qui torturait, c'est peut-être pas un hasard. Les faits de la gare n'ont pas dû le regretter beaucoup, et nous-mêmes non plus. Mais bon, le lendemain, il fallait se venger. Donc, qui c'est qui va aller en embuscade ce soir? Pas de personne de plus droit. Et alors, moi j'avais à l'époque 18 ou 20 mois d'armée, j'étais un peu aguerri, un peu ancien. D'ailleurs, tu t'es aguerri, hein. Moi, la fois que j'ai été blessé, là, si j'avais été un peu plus ancien, je n'aurais pas été blessé. Fais gaffe. Et voilà, donc on dit, eh bien, serre, tu prends ton équipe et tu vas. Voilà. Et après, on sort, puis je dis, qu'est-ce qui va passer devant? Et j'ai dit, je vais y aller, moi. Et je passe devant, et à un moment, j'arrive à l'endroit où la veille il est mort, et là, je crois entendre du bruit. Et ça te paralyse, tu tombes. Moi, je suis tombé, quoi. Je suis tombé sur mes genoux, et le gars qui vient derrière, il te dit, qu'est-ce qui se passe? Et tu lui dis, eh bien, ce qui se passe, j'entends le bruit, et puis je ne peux plus avancer, quoi. Et alors, tu discutes, tu parles, tu essaies de t'orienter, et puis au moment, on est reparti, et puis il y avait rien. Mais la peur arrive à te paralyser, quoi. Et tu peux pas, si tu veux, on ne peut pas le deviner, ça faut y être passé pour comprendre ça. Quoi. Quelqu'un te dit la peur te paralyse, on dit ça comme ça. Mais là, elle te paralyse vraiment.
Bye. se goudre dans la bière. Hein, Dédé, tu sais ce que je pense? Dédé, tu sais ce que je pense? Fous ton camp!
Voilà, après, bon, moi, j'ai vu des morts, bien sûr, j'ai vu des morts de mon côté. Et un soir, il y avait 16, il y avait une section qui était partie, et deux sections qui étaient parties, parce que la compagnie avait quatre sections de 30 bonhommes, ça faisait 120. Et nous, on était restés au poste, parce que de temps en temps, il fallait garder le poste, c'était à 3 ans. Et il y a 16 gars d'une certaine section qui sont parvenus. La veille, on avait vu un coup de lumière avec un gars, un basque, là, avec qui on était très amis. Et bien voilà, tu ne le revois plus. Et puis il y avait 16 individus, quoi.
Et vous avez vécu beaucoup d'attaques, d'échanges de coups de feu avec...
Alors après, les attaques, c'était systématiquement, presque tous les soirs, où les combattants venaient faire de la provocation.
Combattant algérien.
De provocation au poste. Donc tout le monde savait où on allait, au fond de cette pièce, il y avait l'endroit chacun. Tout le monde se mettait à tirer, et puis bon, c'était la rigolade, quoi. Parce que tu comprends bien que le type, ils avaient déjà prévu leur cache avant de tirer. Et alors après, il y avait un village en face, là, des fois, ils venaient ainsi, ils nous faisaient des signes avec les lampes. Il y avait une vallée et le village en face, comme ça. Et alors, le capitaine, surtout quand il avait bu un coup, là, Chiboudou, il s'appelait. Il supportait pas ça. Il avait comme un arme, quoi. Et alors, des fois, il se laissait attirer comme un malade, avec les obus, avec les fusils mitrailleurs, ceux qui tiraient dans le coup. Alors, on tirait pendant un moment, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Puis on s'arrêtait, quand on s'arrêtait, puis j'avais la lampe, clic. Et alors des fois, il recommandait le tir, des fois, il arrêtait. Mais des fois, de toute façon, il s'arrêtait. Après, il y a eu des embuscades quand on allait au ravisaillement à Tidiouzou, les gens nous attendaient là aussi, c'était tout un truc, hein. Il y avait une route qui descendait jusqu'au goudron, une piste qui n'était pas goudronnée, donc il fallait déminer la piste. Alors il y en avait trois qui partaient, il y en avait 4 ou 5 ou 10 ou 15, je ne me rappelle plus, qui suivaient sur les pitons parce que la piste était à flanc de coteau, et donc sur les pitons il y avait la glacée qui tournait. Et puis il y avait nous, ceux qui étions dans les camions, qu'on descendait. Il y a des camions vides pour monter le ravitaillement et les armes. Et on avançait comme ça sur 10 ou 15 kilomètres. Et après, à Goudron, on montait tout le monde sur le camion et on partait. La vallée, c'est de la vie simple. Et c'est là, souvent, on a eu des mines, parce qu'ils creusaient dans le Goudron, et ils savaient qu'on ne minait pas et qu'il y avait des morts. Moi, j'ai eu la chance, je ne suis jamais sorti sur des mines, mais bon, ça existait, quoi.
Des mines qui déclenchaient au passage, qui se déclenchaient toutes seules, quoi. Pas,
ouais, qui déclenchaient au
passage. Pas activées par...
Et alors souvent, si c'était un peu accossé, il y avait les gorges de Brestro, dont on parle tant, il y avait une mine et puis il y avait les gens sur les hauteurs qui tiraient sur les soldats qui avaient été obligés de s'arrêter.
Donc vous avez vraiment vécu la guerre, quoi. Vous étiez...
Oh, je n'ai pas vécu une guerre comme certains disent, mais j'ai vécu la guerre. J'ai vécu la misère, j'ai vu des gens malheureux. T'es arrivé dans ces villages, les hommes étaient partis d'un côté ou de l'autre, parce qu'ils n'avaient pas le choix. L'homme a un âge de combattre, ou il était dans le maquis, ou il était chez nous. Et des fois, les mêmes frères, les familles, il y en avait un d'un côté, l'autre de l'autre. Et parfois, ils avaient choisi, mais parfois, ils n'avaient pas choisi. C'était le premier qui arrivait, qui disait, si tu ne me suis pas, mon bon ami, ça va. Il n'y a pas de cadeau pour mon ami.
avait deux enfants, deux garçons dont elle était fière. Et c'était bien la même chair, et c'était bien le même sang. Ils grandirent sur cette terre, près de la Méditerranée. Ils grandirent dans la lumière, entre l'olive et l'oranger. C'est presque au jour de leurs 20 ans qu'éclata la guerre civile. On vit l'Espagne rouge de sang crier dans un monde immobile. Les deux garçons de Maria n'étaient pas dans le même camp, n'étaient pas du même combat. L'un était rouge et l'autre blanc. Qui des deux tira le premier, le jour où les fusils parlaient, et lequel des deux s'est tué sur le corps touché de son frère? On ne sait pas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on les retrouva ensemble. Le blanc et le rouge mêlés, à même les pierres et la cendre. Si vous lui parlez de la guerre, si vous lui dites liberté, elle vous montrera la pierre où ses enfants sont enterrés. Maria avait deux enfants, deux garçons dont elle était fière. Et c'était bien la même chair, et c'était bien le même sang.
Et donc, il n'y avait que les femmes et les enfants qui vivaient très pauvrement, mais encore quand on les laissait tranquilles. Mais moi, j'ai vécu, par contre, ça je l'ai vu, des grandes zones interdites. Donc, tous ces villages qui étaient à l'arrière du pays, on les faisait disparaître. Ils avaient 48 heures pour partir, depuis, je vais à Tazlal, ça a été un village qui a été justement en zone interdite. Et ils se racontent, ils ont eu 48 heures pour partir, avant qu'ils soient pilonnés par l'aviation. Ils avaient 400 chèvres, bovis, 10 vaches et quelques poules. Et ils ont dit, ils ont lâché toutes les bêtes de la montagne. Et ils sont partis avec l'âne des fois ou 4 poules. Et ils sont partis vers un peu, vers le pays un peu plus civilisé, vers la vallée.
Ils n'étaient pas regroupés dans des camps par les militaires.
Ça existait, je suis d'accord. Et eux, ils n'ont pas eu cette chance. Ils ont dit, vous allez vérifier la ligne, parce que vous avez la famille, tant mieux si vous n'allez pas vous démerder. Donc, eux, là, celui qui nous raconte, là, qui a fait le témoignage, le dernier truc, là, qui est écrit à la main, lui, il avait de la chance, il avait des feux de la famille à aller la ligne, mais il y en avait qui ne savaient pas où aller. Alors, il allait, il pouvait, quoi, il couchait d'eau. Et alors, quelquefois, il y avait des distributions de semoule pour ces gens-là, avec les sas, les sections spécialisées, je m'en dis ça, sections administratives spécialisées, qui donnaient de la semoule à ces camps, parce que c'est vrai que ce que vous dites, il y avait aussi des camps, ou alors dans des villages où c'était trop regroupé, on distribuait aussi cette farine. Mais c'était vraiment la misère, quoi. Et par contre, souvent, on ouvrait une école. Et alors, moi, j'ai jamais fait l'école, mais je suis allé garder l'école, garder le type qui faisait l'école. Parce qu'il allait faire l'école, il fallait 4 ou 5 autos pour se rendre.
C'était un métropolitain, l'instituteur. Voilà.
Voilà, les soigner. Il y avait l'infirmier qui était en même temps l'infirmier qui venait à l'opération, il allait soigner.
Et quelle vision vous aviez de ce qui se passait, quoi? Comment vous voyez à cette époque-là, vous en rappelez l'avenir? Vous pensiez que cette guerre allait être gagnée, perdue, que vous étiez instrumentalisé pour rien, ou au contraire que c'était utile que vous soyez là? Comment est-ce que vous viviez tout ça à l'époque?
Tu ne pouvais te faire qu'une opinion personnelle, parce que la presse était très contrôlée. Et les témoignages chrétiens, par exemple, n'arrivaient pas, il n'y avait que le bled qui était un bourrage de crâne. Mais très vite, même des gens qui venaient de la montagne profonde, comme moi, avaient compris qu'on était là pour rien. Et que la guerre, on ne la gagnerait pas, puisque la population n'était pas avec nous. Et on le sentait fort bien que la population n'était pas avec nous. Donc, très vite, on a compris. Et puis quand même, il y avait des pieds noirs parmi nous, pas beaucoup, parce que les pieds noirs, en général, ils étaient plutôt planqués, mais il y en avait quelques-uns qui nous racontaient comment ça s'était passé, la colonisation, tout ça. Il y avait des Arabes avec nous, comment ils étaient traités, leur père était ouvrier agricole, comment ils faisaient pour vivre alors que le colon vivait autrement. Et entre-temps aussi, une fois, pour nous reposer un peu, on est allé garder une ferme de pieds noirs dans la vallée de la Métidja, la vallée de la plaine. Et là, on a vu comment ça s'est passé. On a vu que le matin, il y avait 50-60 bonhommes qui arrivaient, qui avaient des ordres là-dedans, qui des vrais désordres, ce n'était pas des conseils. On a vu comment ça s'est passé, on a vu qui était qui. Et on nous dit, non, ça ne peut pas aller, on va partir, on ne sait pas quand, on va partir, ça ne peut pas être forcément.
Pourtant, militairement, vous étiez en position de force, quand même.
Militairement, vous étiez en position de force, mais l'histoire, c'est pas à vous que j'apprendrai que la plupart des guérillas dans le monde, elles ont gagné. Et que si la population n'est pas avec toi, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Quand on arrivait dans un village, il y avait des gamins qui surveillaient, il y avait des femmes qui surveillaient. Tout le monde savait qu'on arrivait. Et ils essayaient de savoir la veille, ils essayaient de voir le mouvement de troupes, ils essayaient de deviner, quand je parle avec Judy Atoumi, l'ancien combattant, comment le matin il se levait très tôt, il allait faire le tour de Crète, il se levait trop tôt au coucher de la nature. Et que déjà, et rien que mouvement des troupes, au mouvement de ce qu'il entendait, il savait à peu près vers quel côté on pouvait aller. On aurait pu dire dire de but, il n'y a pas de problème, mais on n'aurait jamais gagné. À mon avis, on n'aurait jamais gagné. Mais ceci dit, les Algériens ont quand même payé très cher. On parle d'un million de morts, c'est contestable, il y en a qui disent moins, peu importe. Ça a été, ils ont payé très fort et il y a eu beaucoup de civils qui sont morts. Et un combattant me disait que quand même, ils regrettaient presque cette guerre parce qu'ils n'auraient jamais pensé que ça leur coûte aussi cher en vie humaine et en misère. Que peut-être ils auraient pu essayer de s'arranger autrement que par la guerre.
Voici la guerre, petits enfants, restez cachés dans vos mamans. Il va pleuvoir d'affreuses choses, ça va faire peur aux cerfs-volants. Guerre de naguère, guerre d'à présent, guerre d'un éclair ou de 100 ans. 100 ans sans guerre, c'est trop longtemps. Voici la guerre, petits enfants. Les entendez-vous qui ricanent ceux-là qui dorment sous Verdun? Les entendez-vous qui cancanent ceux-là qui hantent nos campagnes? Ceux-là qui d'un cheveu faillirent être aujourd'hui nos grands-parents? Ceux-là qui d'une guerre faillir osait vivre plus de 20 ans. Mais entendez bien comme chantent ceux d'aujourd'hui qui marchent au pas. Entendez-les comme ils s'enchantent, ceux-là qui rêvent de combat. Car sommes foule d'imbéciles, en somme foule d'esprits fragiles. Aux guerres, nous ne croyons vraiment Puis un jour, ils partent en chantant. Mais tout au bout, la grande infâme, celle-là, qui ne prend pas de gants, déjà, déjà sème ses graines, graines de mort à tous les vents. Oui, celle-là qui bat, qui sème ses croix blanches au hasard des champs. Regardez-la comme elle saigne sur vos journaux, sur vos écrans. Nos vieux nous parlent d'avant-guerre, nos vieux nous parlent d'après-guerre. Comment parlerez-vous, comment parlerez-vous à vos enfants?
Ainsi se termine cette émission, la première d'une nouvelle série de deux consacrée à Rémi Serre et à l'association 4ACG. Rémi Serre est un des 1 343 000 jeunes Français appelés qui, entre 1956 et 1962, ont été envoyés combattre en Algérie dans ce qui n'est devenu officiellement une guerre que le 5 octobre 1999. Plus de 13 000 de ces appelés rentreront en métropole dans un cercueil. Environ 13 000 autres militaires de carrière aussi. Les victimes algériennes de la guerre sont à chiffrer vraisemblablement entre 300 et 400 000 morts. 50 ans après, étonnamment, les chiffres autour de cette guerre ne font toujours pas l'unanimité. La quasi-totalité des jeunes Français envoyés là-bas en sont revenus traumatisés à de multiples titres, ne se sont jamais remis et ne se remettront jamais de cette expérience douloureuse qu'on leur a imposée et qui reste largement passée sous silence plus de 50 ans après. Ce qui fait la singularité de Rémi Serre, c'est que 45 ans après, âgé de 65 ans, au moment de toucher sa retraite de combattant, il s'est rendu compte que cela lui était moralement impossible. Dès lors, il s'engagea avec 3 autres anciens combattants de la guerre d'Algérie de sa région, Georges Trélou, Armand Vernette et Michel Delceau, dans la création d'une association pacifiste, Association des anciens appelés en Algérie contre la guerre, dite aussi 4ACG, avec pour objectif d'y reverser l'argent de leur retraite pour l'utiliser à des opérations de réconciliation entre les peuples et d'aide à des projets de développement, en particulier en Algérie, en Palestine et au Maroc. Au cours de cette première émission, nous avons évoqué son parcours depuis sa jeunesse jusqu'au moment où il se trouve projeté, jeune appelé, au cœur de cette guerre. Nous vous proposons de retrouver Rémi Serre dans notre future émission, dans laquelle il évoquera la suite de ce qui fut sa guerre d'Algérie, puis comment, 45 ans après, il en est venu à être l'initiateur de la création de l'association 4ACG. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes. La chanson « Près d'un mouchat », interprétée par Claude Vinci sur des paroles de M.G. Le Prince et sur la musique de Philippe Gérard. Puis c'est Serge Lama qui, sur sa musique et sur les paroles d'Alice Donna, interprétait sa chanson « L'Algérie ». Ensuite, Bernard Dimet disait sur un fond musical son texte « À cause de la guerre ». Puis c'est Pierre Delorme qui interprétait sa composition « Tout se brise ». Ensuite, Chris Gonzalez interprétait sa composition « Chez Lucette ». Puis c'était la chanson « Maria ». Interprété par Jean Ferrat qui en a écrit la musique sur des paroles de Jean-Claude Massoulier. Et enfin, à nouveau, Pierre Delorme interprétait sa composition « Voici la guerre ». Nous remercions Rémi Serre d'avoir bien voulu accorder cet entretien à Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, à l'émission « Pistentlac ». Bonsoir.
Son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Pistentlac. C'est pas pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, se mise en claque. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque. Applaudissent que s'arrête le temps, on s'en va, on se bise en claque. voilà son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant clair. C'est pas de la rengaine à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant clair. Le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque. On se bise en claque.